Bienvenue sur notre podcast Match après match. This is how
legends are made. On vous attendait avec impatience et vous répondez encore présent. Vous êtes pile à l'heure pour votre talk 100% foot. C'est tous les dimanches après la Super League. On a plein de choses à se dire aujourd'hui. La semaine a été riche. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Voici le programme de ce dimanche 1er mars. Carlos Varela en a gros sur le cœur. Il a mal à son football. Il nous propose son coup de gueule après la semaine européenne. Lausanne enchaîne un 9e match consécutif sans victoire, toute compétition confondue. On reviendra aussi sur le 3e derby du Rhône de la saison, probablement le dernier aussi vu le classement. C'est peut-être mieux ainsi, hein, surtout si c'est pour voir ce qu'on a vu samedi. On vous proposera des réactions dans les deux camps. Pour Sion, ce sera enregistré. Pour Servette, ce sera en direct puisque Jérémy Guimeneau passe la prochaine heure avec nous, joueurs du Servette FC. Salut Jérémy, bienvenue. Bonsoir. À toi. Première fois que tu viens, je crois, dans Match après match.
Première fois que je viens ici dans Match après match.
Ça fait quoi? Comment tu trouves ce décor? Comment tu te sens?
Bah, j'étais venu il y a 5 ans avec Andy. Ça n'a pas trop changé, mais ce décor, j'aime bien.
Sympa, sens-toi à l'aise. En tout cas, tu interviens quand tu veux. Tu es comme à la maison. En face de toi, un ancien joueur du Servette FC, le consultant qui n'a pas sa langue dans sa poche. Donc Carlos Varela est là.
Salut.
El Gallego d'un côté, le catalan d'adoption de l'autre. Hablamos espagnol, ok?
On peut.
On essaye?
On peut. Alors, catalan, non, mais espagnol.
En espagnol, non, on va parler plutôt italien, ou en tout cas parler de ce qui s'est passé dans un des clubs italiens. Tu as voulu revenir sur un épisode qui t'a profondément dérangé, choqué. Alors, je te propose d'abord de lancer la petite virgule, parce que c'est l'heure de la Varela. Et la VAR n'était pas vraiment là. Carlos, tu voulais revenir sur le carton rouge de Lloyd Kelly dans Juventus Galatasaray. Tu m'as écrit, on s'est écrit mercredi, tu m'as dit « j'ai mal à mon football ».
Ouais, c'est, je pèse mes mots et je pense que tout amoureux de football, qu'on soit de la Juve ou qu'on aime juste le football, ces images commencent à… elles font mal parce qu'on est en train de saccager notre football qui appartient à tout le monde. Et pour moi, oui, la VAR est là, j'aurais aimé qu'elle ne soit pas là parce que pour moi, ils prennent en otage… 70 000 personnes, des centaines de milliers de personnes devant leur télé, devant un spectacle qui est gâché par une décision de 4 marionnettes. Je vais expliquer pourquoi je dis marionnettes, parce que je ne vais pas mettre le doigt sur l'arbitre. On va voir la scène, là. Pour moi, ils sont victimes aussi, eux, des hautes instances qui font de ce football un peu, qui veulent que ce soit plus dynamique, qu'il y ait plus de buts. Et après, on voit des scènes comme ça, où c'est... Finalement, il n'a pas été blessé. C'est un accident du football. Même s'il lui aurait cassé la cheville, j'aurais dit pareil. C'est-à-dire que... Oui, okay. Parce qu'il faut... On en a vu dans le foot, des jambes cassées, des chevilles cassées, et ce n'est pas forcément des erreurs. Là, on demande à un joueur, donc de la Juventus, donc aujourd'hui, je pense toujours aux entraîneurs des juniors. On devrait dire maintenant à un junior, alors attention, déjà que tu dois sauter comme un manchot. Attention de tes bras qui ne touchent pas le visage d'un joueur. Et mais surtout, si tu gagnes le ballon, ne regarde pas où tu as dévié le ballon, si je l'ai dévié sur Guimeneau, parce que regarde que où tu vas atterrir. Parce que si tu atterris sur quelqu'un qui n'a pas sauté, qui a perdu son duel, tu vas prendre carton rouge. Et je ne peux pas croire que les arbitres soient devenus tous aussi nuls. Ce n'est pas possible. On voit en Suisse, je pense qu'ils sont eux-mêmes pris en otage par des gars qui ont un bouquin de règlement. Et je comprends toutes ces nerfs, tout ça ne devrait pas exister en fait. Et les joueurs, et Jérémy est là aussi, c'est des professionnels. Tu changes une règle, le lendemain, ils vont jouer avec cette règle. La comédie que fait le joueur, qui se roule, qui l'attend pour marquer le coup, c'est aussi parce qu'il sait qu'à un moment donné, il y aura peut-être 70% de chances qu'il soit expulsé, que mon équipe gagne. En fait, ils font ça pour leur équipe. Et ils influencent tellement le football que ça en devient dangereux. Ouais, et si je vous dis que dans 10 ans, il n'y aura plus de contact dans le football, puis qu'il y aura des 5-5, on va se foutre de moi. Mais ça fait 10 ans, on aurait montré cette scène, on aurait dit ça, ce sera rouge dans 10 ans, on se serait aussi foutu de moi. Donc j'ai très peur. Et pour moi, il tue le foot.
On comprend évidemment, tu parlais de la réaction de Lloyd Kelly avec des mots qu'il a repris, des mots qui sont devenus mythiques. Hein, Didier Drogba qui avait prononcé ces mots-là après un match contre le Barça quand il s'était adressé à la caméra. It's a fucking disgrace. Forcément, alors même si l'UEFA nous dit, le joueur de la Juventus a utilisé ses crampons, il y a eu un gros contact sur la cheville de son adversaire dont l'intégrité physique a été mise en danger.
C'est faux. Je peux juste revenir là-dessus.
C'est justement, voilà.
Parce qu'il paraît qu'elle pas complète. Quelqu'un a fait la recherche et effectivement, on peut pas regarder le foot sur un arrêt sur image, mais effectivement la règle dit, on met une semelle sur la cheville du joueur, sa santé en danger, virgule, avec brutalité, intention, etc., etc. Pas un mot dans cette image-là.
Il regarde jamais le ballon, Kelly, en fait. Il regarde jamais la cheville, pardon. Il regarde tout le temps le haut, le ballon, le ciel, tout ce que tu veux, mais jamais la cheville en bas.
Non, mais après, Carlos, il a tout dit. Mais pour moi, ça tue le foot. Enfin, le mec, il va au duel, au ballon, et comme Carlos l'a dit, enfin, il doit regarder où il met le pied, s'il lui touche un peu la cheville haute, et on a rouge. Après, nous, on est sur le terrain et parfois, ouais, depuis qu'il y a la VAR, on se dit, ouais, faut qu'on fasse attention à tout parce qu'à tout moment, l'arbitre, il n'a pas vu, mais droit derrière, on l'appelle parce que... Donc, ouais, c'est pas évident pour nous, mais...
Ça change ta façon de jouer au foot ?
Oui, ça change.
Savoir que tu peux être pénalisé par la VAR, ça change ta manière de jouer ?
Oui, bien sûr, ça change. On sait que s'il y a 4-5 joueurs qui vont vers l'arbitre et qui lui disent, ah, regarde sur la VAR, regarde, peut-être il y a contact... Il va appeler et il va vérifier. Alors que si personne ne lui dit rien, ça peut passer à la trappe. Enfin voilà, c'est. Il y a des points positifs et il y a des points négatifs, mais quand on regarde cette action,
donc vous
c'est
êtes...
un scandale.
Et puis eux, ils sont aussi victimes. Parce que les attaquants, parce qu'on peut tourner le problème à la fin, lui aussi va exagérer une douleur ou un geste parce qu'il sait que pour le bien de mon équipe, ça va peut-être annuler le but qu'on vient de se prendre, ça va peut-être expulser le joueur. Donc en fait, on va commencer à mettre le doigt sur les joueurs. En disant, ah, regardez, il fait la comédie. Mais il le fait pour le bien. En fait, c'est eux les fautifs de la haute instance qui influencent tout ça. Et ça fait qu'on devient des marionnettes, on devient des guignols, parce qu'après les gens, ils disent, ah, regarde les fouteux. Mais non, mais c'est les règles. Donc, juste une petite anecdote d'une minute. Quand il y a eu l'offside, comment dire ça, de position, si le ballon n'était pas passif, l'offside passif, ouais. Ils ont opté ça pour un lundi. Le mardi, on était à l'entraînement. 4 heures sur un terrain pour entraîner le offside passif, en mettant exprès quelqu'un hors jeu. Donc ça, c'est pareil. On les entraîneurs parlent. Jérémy, si tu on t'effleure le coude au visage, reste. De toute façon, tu ne vas pas revenir. Donc ça influence tout le foot, mais dans une mauvaise direction. Et mon seul espoir est le foot anglais. Je dirais pourquoi ? Parce que pour moi, le foot anglais, c'est mon espoir. Je m'accroche à eux parce qu'ils ont déjà réagi cette année avec les mains. Ça dure 5 secondes, pas un joueur réclame. Et je mise sur eux pour qu'ils... corrige un peu tout ça.
Tu parles de foot anglais, on donne juste le résultat de Arsenal-Chelsea, victoire 2-1 des Gunners, et puis on va parler évidemment de Servette. Vous êtes déjà nombreux à nous écrire sur le chat, plein de questions pour Jérémy, vous étiez déjà fantastique sur Instagram pendant la semaine, on en parle, c'est promis. On reste juste encore sur la Juventus, parce que là aussi j'avais quand même envie de parler de ça, c'est que la Juventus devait marquer 3 fois, elle avait perdu 5-2 à Istanbul contre Galatasaray, et au départ, très très peu de supporters, en tout cas ceux avec qui j'ai échangé, ils croyaient. Après, finalement, tu as ce 1-0 de Locatelli, tu as le 2-0 qui arrive de Gatti, tu as le 3-0 de McKenny, et puis finalement, tu te fais sortir après le poteau de Yildiz, après Chegrova, tout ça. Finalement, d'y avoir cru en cours de match et de te faire sortir, ça fait presque 2 fois plus mal.
Ouais, mais c'est un succès quand même. Et la réaction du public qui applaudit son équipe, elle veut tout dire. C'est pas une superbe saison. La 4e place, elle est loin d'être, on verra ce soir, elle est en danger. Et le public leur a dit merci. Et ça me fait encore plus mal parce que j'étais devant la télé, il y a eu ce carton rouge, on ne va pas y revenir. Mais la Juve a montré que quand ils veulent être au rendez-vous, ils y sont.
Et j'aimerais qu'on parle de ce moment-là, cette occasion incroyable ratée par Chegrova. Ça, c'est le 4-0. Si ça rentre, c'est terminé. Galatasaray est complètement dans les cordes. Et moi, ce qui me dérange dans ce geste, c'est que oui, d'accord, on peut rater. Tout le monde peut rater. Mais il y a des moments, des rendez-vous, des moments, des tournants dans les matchs ou des tournants dans des saisons où tu dois être là. Tu dois répondre présent. Et ça, c'est le moment où Chegrova marque ce but. Les fans de la Juve se souviendront de lui toute leur vie, c'est comme Ronaldo, le triplé de Ronaldo contre l'Atlético de Madrid. Là, tu dois être là. Tu dois répondre présent. Tu n'as encore marqué aucun but. Tu n'as fait aucune passe D depuis le début de la saison pour tout ce que tu as été payé. Pour moi, ça me dérange, ce rendez-vous-là. Et j'aimerais beaucoup t'entendre, toi, Jérémy, parce que tu es attaquant. On sait que oui, tu as raté des fois des occasions. Mais il y a des moments où tu dois répondre présent.
Bah, Carlos le sait, mais dans le foot, ça peut... Enfin, ça peut te sourire à un moment donné où, ben voilà, là, il n'a pas marqué, pas de passe D. Et sur une action, en fait, ça peut être un déclic. Le mec, il marque et là, sa saison, elle est lancée, comme tu dis, les fans. Le mec, il marque à la dernière minute, le 4-0, il se qualifie alors qu'il perd des 3.
C'est ça, c'est que
voilà, le foot, c'est beau aussi pour ces moments-là. Uh-huh. Mais quand tu rates, c'est là où ça le fait le plus mal.
Mais le moment où, en fait, il marque ce but, j'imagine les images mythiques, déjà. Tu vois, il marque, il va fêter, les images, la célébration, les fans de la Juve qui s'en souviennent éternellement. Et chez Grova, que pour ce but-là, les gens s'en seraient souvenus éternellement. Et c'est ça qui me dérange dans ce geste manqué, son bon pied. Il y a tout qui joue. Il y a tout qui joue.
Il y a la place.
Pourquoi il rate ?
Puis il y a la place. Alors, au début, je me suis dit, il y a un tacle. Et puis souvent, quand quelqu'un vient devant, tu dois vraiment viser le petit filet. Là, il a juste à la cadrer, il y a le gardien qui part de l'autre côté, tout est ouvert. Dani, il y a des fois, le pied, il tremble. Et en fait, alors, j'ai marqué des buts, Jérémy est un buteur. Mes buts les plus importants sont été dans les moments les plus importants où je me souviens même pas de ce qui s'est passé la seconde avant. J'ai pas eu le temps de me faire le film. Par contre, il y a des actions où je cours au but. Ça a commencé très jeune, on joue contre le Real Madrid dans un match amical. J'ai 10 secondes pour m'imaginer ce que ça va provoquer de marquer ce but. Et j'y pense en courant. Ma famille qui me regarde pour la première fois. C'est... Et je m'en parle contre le gardien que un jour après, je l'aurais mis ce but. Sans réfléchir. Et je pense que là...
Il a réfléchi.
Il a le temps de... Je pense qu'il est bien placé. Il voit le schéma peut-être à l'avance. Et je pense qu'il a le pied qui tremble parce qu'il sait aussi, tout comme toi, qu'est-ce que ça peut représenter. Au contraire, s'il le marque... Ça repart, il est là, puis on va se souvenir que de son but. Il a qualifié la Juve et puis ça va lancer de nouveau sa saison. Donc peut-être, je ne suis pas à sa place, mais quand tu réfléchis trop, tu as le pied qui tremble.
Et on le voit à la fin dans les images où le public applaudit l'équipe. Lui, on voit ses gros plans, il sait qu'il a raté un énorme truc, probablement le but de sa vie. Comment on se remet de ça ? Est-ce que simplement il faut se dire, bon ben, je passe à autre chose, ou tu rumines ça longtemps, comment ça se passe chez toi, par exemple ?
Non, mais déjà, pour revenir, parce que Carlos Sabin en a parlé, mais le public de la Juve, enfin, il n'y a pas beaucoup de public qui applaudissent leur équipe après s'être fait éliminer en Champions. Ça me refait penser à Cristiano qui met la bicyclette, enfin, voilà, les supporters
de la Juve.
Oui, c'était
à Turin aussi, ouais, c'est vrai.
Ouais, voilà. Donc non, c'est un public magnifique et qui soutient à fond son équipe. Je te dirais, chaque joueur est un peu différent. Ça a dû lui faire mal, je pense qu'il n'a pas bien dormi parce qu'il a dû revoir l'action ou comme ça. Mais après, c'est ça aussi, une équipe forte et soudée. Je pense que ses coéquipiers et l'entraîneur lui ont fait savoir que parfois le foot est un peu cruel. Donc non, de continuer à travailler et que la prochaine, ils la mettent. Même si, comme le disait Carlos, pour moi aussi, les occasions, dès qu'on arrive, on a trop de temps,
ouais,
c'est les plus difficiles.
Ok. Donc
en fait, quand t'as pas le temps,
c'est l'instinct.
Ouais, c'est l'instinct, c'est le geste rapide, tu sais. Mais quand t'as le temps, c'est là où, même moi, ça m'est déjà arrivé à Saint-Gall ou comme ça. Tu pars et t'as vraiment 10 secondes. Et tu te dis, là, je vais marquer. Comment je vais célébrer? Je vais partir à droite, à gauche. Et au final, tu penses pas à te concentrer sur ton geste et tu rates alors que l'occasion, tu la mets 9 fois sur 10.
Ouais, bon, moi, ça m'est jamais arrivé dans le foot amateur, ni d'avoir le temps, ni de pas avoir le temps. Je ratais quand même à chaque fois. L'actu de la semaine, c'est aussi les erreurs d'Akanji et de Kobel avec l'Inter contre Bodø/Glimt pour le défenseur et puis avec Dortmund contre l'Atalanta pour le gardien. Ça, c'est pas bon signe, les gars, franchement, même si, ok, on espère qu'ils feront pas ce genre d'erreur au mondial. C'est au mondial qu'il faudra être à 100%. Mais c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir, ni chez Akanji, peut-être un tout petit peu plus chez Kobel.
Ouais, mais Akanji aussi en fait une, pour moi, hein, il en fait quand même une à chaque match. Voilà, celle-là, elle est bizarre dans l'idée qu'il a. On voit bien qu'il veut relancer comme à son habitude, il veut gagner 20-30 mètres vite, balle au pied, puis tout d'un coup, il se rend compte, j'ai trois Norvégiens en face de moi, donc il n'a pas pris l'info. Puis après, il met un peu la faute sur l'autre, mais bon, il sait très bien qu'il se plante.
Est-ce que c'est un lien avec le fait qu'il se soit fait mal à la tête un peu avant, à ton avis?
On en a rigolé, j'ai entendu dire, ouais, il est commotionné jusqu'à
ouais, non, là. Qu'il n'y a pas ça, mais est-ce que c'est un lien? Parce que certaines personnes pensent que c'est un lien. Je ne pense pas.
Non, mais non, c'est pas possible. T'as l'arcade ouverte. Voilà, il a pris une mauvaise décision dès le départ, il s'est mis dans un gouffre et puis malheureusement, ça n'a pas payé.
Et il y a Tarek, un fidèle de match après match, qui nous dit Akanji est surcoté. Moi, je trouve ça un petit peu violent. Vous?
Non, c'est violent aussi.
Ouais.
Parce que quand l'Akanji de City. Enfin. Après, peut-être que là, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais pour moi, c'est un joueur solide et complet. Après, il a ses défauts, des fois, il fait des erreurs, mais pour moi, c'est un joueur, un défenseur solide. Et j'ai pu le confronter quand il était encore à Vinti. Non, c'est très fort.
Ouais, très solide. Et puis, Kobel. Donc là, c'est pas là, hein, l'erreur, évidemment. Là, c'est le penalty concédé, la faute sur Krstović. Mais la relance de Kobel dans le temps additionnel, franchement, t'as pas le droit.
Ouais, parce qu'il est pris dans. J'ai l'action encore devant moi. Le fait de sortir est très bien, mais il sort trop vite. Le rebond vient. Parce qu'il veut la dégager direct. En fait, il sort trop vite, il se retrouve trop près du ballon. Donc il se dit, ah ben, je peux plus faire direct, je dois faire deux touches. Ouais. Donc il contrôle, puis après, ça passe. Il faut que ça aille très vite dans le cerveau. Il l'a juste mal. T'aurais mieux fait de la mettre d'or. Mais lui aussi. Il est habitué à une par match et moi je suis d'accord avec le commentaire à la Kanji, si je peux me permettre. Surcoté, ça ne veut pas dire qu'il est en train de dire qu'il est mauvais. Mm-hmm. Surcoté, c'est qu'on le met à un niveau, enfin, dans une classe d'autres défenseurs centraux qui n'y appartient pas. Et moi je suis d'accord avec lui, il est complet, il est tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas le crack comme certains l'imaginent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Je pense qu'il est surcoté. Ouais.
Allez, on l'a dit, hein, la Suisse qui jouera bientôt en match amical contre l'Allemagne et contre la Norvège, c'est plus facile si on le dit correctement. On ouvre la page Derby du Rhône, c'était samedi soir le troisième Derby du Rhône de la saison. Score final 0-0 entre Servette et Sion, un triste troisième Derby du Rhône, on peut le dire, Carlos.
Oui. Pas forcément par le résultat, mais par le contenu et le spectacle, il peut y avoir des 0-0. Agréable à voir deux équipes agressives qui se tapent dessus. On n'a pas eu les ingrédients d'un derby et surtout de celui-là.
Voilà, c'est ce qui m'a manqué. J'allais aller vraiment là-dessus. Pas d'intensité, pas de mauvaise foi, pas d'expulsion, pas de gestes méchants. C'était tellement gentil, on avait l'impression que vous étiez tranquille comme ça et que vous n'aviez pas envie d'en faire plus.
Je dirais pas ça. C'est vrai que ça a été pas un beau match. Trop d'erreurs techniques, trop d'imprécisions. Et ouais, après je te dirais, c'est aussi un peu la forme du moment. On essaye des choses, ça marche pas. Comme je vais le répéter, trop d'erreurs techniques. T'as l'habitude, dans ces genres de derby, il y a 2, 3, 4 buts. Dans le match. Et là, il y a 0-0. Donc, triste sur le résultat et triste aussi sur le terrain parce que très frustrant. T'essayes de donner un peu tout ce que t'as et au final, pas d'occasion, pas de but. Donc, ouais, frustrant aussi sur l'aspect global du match.
Ouais, une équipe qui avance pas, hein, seulement 9 points sur 27 possibles en 2026. Une seule victoire sur les 11 derniers matchs, 2 succès sur les 16 dernières sorties. Des chiffres qui inquiètent. Et même si on nous dit tout le temps que Servette va mieux, par exemple, hier soir, on peut garder le fait que Servette n'a pas encaissé de but. Il y a une chose qui est intéressante, mais 2-3 autres choses qui le sont un petit peu moins. Ben, on se demande quand même. Et c'est une question qui revient dans le chat. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce que Servette doit commencer à regarder derrière ? Gaëtse a gagné aujourd'hui contre Lugano,
alors,
par exemple.
Sur cette saison, je pense que oui. Parce que on m'a aussi tombé dessus. Moi, ça fait 2 mois, j'ai dit, je ne voyais pas la patte de ce Servette. Je ne voyais pas le progrès. Moi, maintenant, je ne veux pas entendre parler que... Ouais, mais aujourd'hui, on n'a pas pris de but. Il faut faire 4 clean sheets pour dire on est en train de stabiliser la défense. Tu prends des buts pendant 9 matchs, puis tu joues contre la lanterne rouge, tu n'en prends pas. Il ne faut pas aller devant le micro dire oh, on n'a pas pris de but, on a fait ça de bien. Servette, c'est Servette. Il faut juste que. Même le coach doit s'en rendre compte. Servette, je le répète, j'y croyais encore, ça fait quelques semaines au top 6.
Oui, tu l'avais encore dit ici. Ouais.
Parce que j'ai dit c'est Servette, leur technique est là. Mais maintenant, il y a trop de choses qui sont écroulées, et puis c'est trop loin maintenant pour le top 6.
Il n'y a pas de clean sheet, effectivement, malgré le fait que le Servette FC est l'une des moins bonnes défenses du championnat, donc on pourrait éventuellement garder ça, mais seulement 27 points en 27 journées, c'est terrible, c'est l'une des, un des pires bilans du club en Super League.
Je dirais malheureusement, enfin c'est pas trop déçu, des fois il y a des saisons qui sont comme ça. Je repense à la saison où on gagne le titre, où tu fais un match catastrophique et tu gagnes 1-0 à la fin. Cette année, c'est tout le contraire. Des fois, tu te bats. Enfin, à la dernière minute, tu te prends des buts trop souvent, trop rapidement, sur des erreurs. On a fait trop d'erreurs techniques, trop d'erreurs où on a donné le but. Et à la fin, tu payes cash. C'est juste ça. Cette saison, on paye cash toutes nos erreurs. Après, voilà, c'est à nous d'en faire plus, même si on travaille énormément. Et comme je le disais avant, c'est une année où je pense que c'est une des années où on travaille le plus depuis que je suis à Servette. même depuis Saint-Gall, où vraiment toutes les semaines elles sont intensives, on travaille vraiment énormément. Et voilà, c'est l'entraînement, le week-end, il faut lâcher, il faut vraiment tout lâcher et ça ne nous sourit pas. On essaye de donner à notre public vraiment cette victoire à domicile. On essaie d'accrocher des points. On ne va rien lâcher jusqu'à la fin, mais c'est une situation qui n'est pas facile aussi pour nous. Ouais.
26 octobre, hein, le dernier succès à domicile. 4 mois sans succès à domicile. Seulement 2 victoires, justement, devant ce public dont tu parlais. Hier, c'est quoi ? C'est plus à cause de vous que vous faites ce match-là, cette prestation-là, ou c'est plus à cause de l'adversaire, ou c'est les deux ? Comment tu l'expliques ?
Non, ça part de nous. Enfin, c'est nous, on est chez nous, c'est à nous de mettre le rythme, c'est à nous donner le rythme du match. Et Sion, de toute façon, on l'a vu dès la 40, 50e minute, ça perdait un peu de temps. Donc je pense que le 0-0 allait bien. Non, c'est de notre faute. Il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas dire c'est un tel, l'autre équipe qui a mis ce... Non, c'est nous, tout court. Trop d'erreurs techniques. Je ne cherche pas d'excuses. C'est juste nous, alors que toute la semaine, on travaille bien. Et ce week-end... Il faut le dire, ça a été catastrophique.
Pas d'excuses pour Jérémy Guimeneau, pas d'excuses non plus pour Steve Rouillet. Je propose d'écouter les propos du défenseur du Servette FC qui analyse cette défaite. Et puis écoute bien, Jérémy, il y a une question pour toi à la fin.
Bon, je pense qu'il y en a assez de place, il manque pas mal de choses. On voit que offensivement, on arrive parfois à mettre en danger les équipes, à marquer des buts. C'est surtout cette saison qui est compliqué au niveau défensif, on a eu de la peine à faire des clean sheets, on a fait beaucoup d'erreurs également individuellement et ça paye cash. Voilà, être encore plus solide ce soir, voilà, on n'a pas pris de but, c'est déjà ça, mais je pense qu'il faut, avoir de la constance dans les performances, pas toujours faire une mi-temps bonne et une deuxième moyenne. Je pense que c'est ce qui nous manque aujourd'hui, cette constance-là pour pouvoir enchaîner les bonnes performances.
On a le bonheur d'avoir Jérémy Guimeneau avec nous pour match après match ce soir. Est-ce que le coéquipier, est-ce que l'ami également aurait une question à poser à son coéquipier Jérémy Guimeneau ?
Ouais, Jérémy, j'ai une petite question à te poser. Voilà, tous les jours, je te prends à l'entraînement dans ma voiture. Je voulais savoir quand est-ce que tu allais prendre la tienne, parce que c'est toujours la mienne. Donc du coup, dis-moi, la prochaine fois que tu prends ta voiture, parce que la mienne, elle est sale du coup. Donc voilà, c'était ma petite question de la soirée.
Donc, il faut soit prendre ta caisse, soit lui offrir des bons pour le lavage au tunnel. Qu'est-ce que tu choisis ?
Bah, je prends sa caisse et je lui paye pas les lavages. Non, ça va être ça. Bah, écoute, il a la voiture du club. Donc, il faut un peu montrer les voitures du club. Donc, on va à l'entraînement avec sa voiture.
Mettre en avant le logo du...
Voilà, il faut mettre en avant et c'est un bon chauffeur. Donc,
Il conduit bien ?
Ouais, très prudemment.
Prudent, papa, père de famille,
non,
tout ça.
Non, mais c'est...
Impeccable.
Une conduite d'un retraité.
Excellent. Alors bon, bah, au pire, tu lui paieras une petite pizza à l'occasion. Il y a beaucoup de gens qui partagent ton avis, en tout cas sur le chat par rapport à ce que tu as dit. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Il faut travailler. Il y a même des gens qui effectivement sont d'accord avec la tristesse du match. Certains disent que ça avait l'air d'être un match amical et qu'il y avait plus d'ambiance dans les tribunes, dans les gradins de ce stade qui était d'ailleurs hier soir, faut le dire, malheureusement pas très très garni. On passe à Sion qui a poussé un peu sur la fin du match, à ce poteau de Balthazar. Comment toi tu jugerais le match des Valaisans ?
Le match des Valaisans, il est sur leur lignée de cette saison. Ils sont à l'extérieur, un derby. Ça fait très longtemps qu'on s'attend à voir Servette avec le ballon en possession. C'est eux qui l'ont eu, c'est eux qui ont eu les meilleures occasions en deuxième mi-temps. Cette équipe surprend peut-être certains, mais continue son chemin, sa progression, parce qu'on voit même que maintenant ils voyagent au derby et ils ont cette croyance au groupe, on peut aller et leur faire mal, des fois on joue mieux que d'autres, mais on a des arrières, ils ne ferment pas le jeu pendant une demi-heure, on sent que c'est un groupe, moi ça m'a surpris, parce que derby allait montrer si vraiment ils avaient dépassé Servette sur cette saison. Et on peut dire que oui, sur cette saison.
J'adore le discours des joueurs de Sion. J'en ai croisé quelques-uns hier avant le match. Ils nous disaient, mais oui, ok, on est pour le moment dans le bon wagon, dans le wagon du top 6, mais on devrait être plus haut, mais on doit faire plus. Et ce genre de discours-là, on ne l'a pas toujours entendu. En Valais, sur les... Allez, je ne sais pas, là, pas sur le passé récent, mais sur le passé un peu plus lointain, on n'entendait pas ce genre de choses-là.
Non, de l'extérieur, oui. Puis c'est là où ils se sont emballés, puis bah, le télé est arrivé, puis avec un bon départ, ça s'est écroulé. Mais non, mais là, ils y croient. Ils disent pas on devrait être plus haut. Et puis le monde sur le terrain, surtout en s'aidant les uns pour les autres. Mm-hmm. On est obligé de parler du derby, je compare. Jérémy dit on est fautif, ces joueurs. C'est très pro de ce qu'il dit. Moi, j'ai mon autre version, et c'est la mienne, mais ça ne regarde que moi. Quand une équipe qui doit mettre la pression, qui doit gagner un derby, fait un tir cadré, quand je vois un attaquant isolé, quand je vois un joueur qui rentre alors que c'est un central mais il est à droite, comme latéral, ou alors Mazikou. D'un match à l'autre, on passe de... Non, Bourges qui rentre aussi, qui va à droite, puis Matsiku pour moi c'est un joueur à 4, puis quand il joue à 3, il est là. En fait, je vois du bricolage. Je sauve un peu les joueurs en disant, pour moi, c'est pas votre faute. Parce qu'ensuite, après, tu mets le doigt sur la technique. Mais si, au lieu d'avoir 4 possibilités de jeu, t'en as plus qu'une, bah, t'as de fortes chances de rater cette passe. Quand si t'es compact. Et si on continue la comparaison, si on a peut-être un cadre qui a grandi, donc du coup, les joueurs, ils sont plus forts, mais à la base, peut-être pas tout le monde y croyait, mais ils savent à quoi ils jouent. Et c'est pas pour défendre Jérémy Kella ou les joueurs, mais je vois pas Servette. Et en plus, les forces qui étaient les leurs, la Jourie, elles ne peuvent pas disparaître comme ça. Je pense qu'il y a du bricolage et ils le payent.
Mais c'est vrai que hier soir, on a été quand même très, très surpris par la compo de départ. Alors là, on va pas poser de questions à Jérémy là-dessus parce que c'est son coach qui fait les choix. Mais effectivement, Bourche, on aurait pu l'imaginer, il revenait de suspension, on aurait pu l'imaginer titulaire. Mazikou, il est passé d'une défense, de latéral gauche à une défense à 3, tout à coup sur le banc. Alors il a fait aussi des erreurs, souvent, en plus, là, dernièrement. On a un joueur tout à coup qui se retrouve latéral gauche alors que normalement, il peut jouer aussi, il joue plutôt plus haut sur le terrain. Peut-être effectivement à Sion c'est plus clair, plus facilement lisible et Servette est tout sauf imprévisible. Ça, d'ailleurs notre thématique mardi avant le match de Winterthur. On comprend pas bien.
Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je me suis permis de revenir là-dessus. C'est que peut-être Sion avec moins de possibilités de faire de jouer un peu avec ce 11, c'est basique. Ils savent à quoi ils jouent. Moi, je dis juste, c'est simple. Je n'invente pas le football, puis il ne faut pas l'inventer, puis faire l'expert. Quand tu n'as plus des moments de domination à la Servettienne, et je veux juste dire que Servette, depuis leur montée, depuis 6 ans, s'il y a une équipe qui peut se permettre une saison aussi mauvaise, c'est Servette. Ça fait 6 ans, pour moi, c'est un régal. Tout le temps européen, podium, donc la chute de cette saison fait plus de bruit que si c'est une équipe qui était tout le temps en train de se sauver. Et ça, il faut en être conscient. Puis à Genève, c'est très compliqué. Mais je me fais un peu plus de soucis, c'est que là, je vois qu'on sait plus trop, on voit plus trop de schéma, en fait.
Servette sera-t-il barragiste pour le moment sur le sondage proposé par Régis Berisville qui est en régie? C'est oui à 53%. Est-ce qu'on peut dire que justement, Sion a les certitudes que Servette n'a pas aujourd'hui, au moment où on se parle?
Totalement, et ça se voit aussi dans le jeu. On voit qu'ils sont sûrs d'eux, on voit pas rentrer dans les détails, mais on voit que c'est une équipe en ce moment qui a plus de joueurs et qui a plus de joie que nous.
Vous êtes trop prévisible, c'est repris justement sur le chat ici. Vous manquez d'originalité, comme si vous n'aviez pas d'idée. Vous êtes trop facilement lisible. Vous le sentez, vous, sur le terrain aussi, ça?
Je te dirais qu'on le sent parce que on n'a plus autant d'occasions. Je te parle en tant qu'attaquant. Plus autant d'occasions et comme Carlos l'a dit, enfin un tir du match contre Sion, c'est pas possible.
Ouais, c'est pauvre, hein. C'est très très pauvre. Puis en plus c'est pas un arrêt derrière quoi. C'est vraiment c'est cadré, c'est-à-dire ça va au fond, mais Rachopi peut bloquer ce ballon sans problème. Peut-être ton jugement justement sur Sion. J'avais beaucoup envie de t'entendre sur Nivo Kasi parce qu'on n'a pas pu en discuter la semaine dernière. Il a marqué ce triplé contre IB. C'est un joueur que t'as toujours apprécié dès le début de la saison. Cet engagement, cette envie, ce sens du sacrifice. Ça aussi c'est une différence qu'on a vu encore hier entre les deux équipes.
Ouais, je lui dis merci parce que c'est vrai que quand il a eu, que tout le monde pensait ah c'est un flop, moi je voyais des choses intéressantes de son comportement, de son flair dans la boîte. J'ai dit c'est pas possible que ça prenne pas. C'est un joueur qui fait énormément de bien parce que je pense qu'aussi c'est un profil qui est pas venu de tout en haut, se l'a raconté en Super League ou F-Session et je pense qu'il s'est mis dans le moule. Je dois prouver, je dois y aller. Puis ça colle en fait avec tout le cadre. Après il est pas seul. C'est pas lui qui fait ce que Sion soit à ce classement. C'est tout ce qui se passe autour, même des joueurs qu'on avait mis à la cave, qu'on pensait, des FT, des Chouaref. Tout le monde est devenu plus constant et puis lui, il profite de ça. Et c'est bien parce qu'on a, bah, on n'a pas deux neufs, mais on a un neuf là, puis un neuf sur le plateau. Mm-hmm. Jérémy était beaucoup trop seul contre Sion. Et il a fait des courses, il a fait des appels. Mais il dépend. C'est un poste ingrat parce que t'es premier critiqué. On a vu avec niveau 4-6, vu que c'est la question, quand ça ne marque pas,
ouais.
Alors que tu as besoin des autres pour que ça marque, et puis tu as besoin d'une confiance au-dessus de tous les autres. Parce que tu ne marques pas pendant 4 matchs comme niveau 4-6 au début, et puis on te met le doigt dessus, ce n'est pas comme un milieu, comme un latéral, qui a des jokers, puis il peut sauver avec d'autres choses. Ils ne peuvent rien sauver à part avec des buts. Il n'a pas eu l'appui qu'il avait. Et pour moi, il faut être plus près à deux, et je pense que niveau 4-6 profite aussi de cet élan. C'est courage, des Lavanchiks, ils ont encore augmenté leur niveau avec des centres.
Ouais, des deux côtés.
Et ça colle avec son profil.
Ouais. Effectivement, c'est frustrant pour un neuf, pour un avant-centre, de ne pas avoir la possibilité de tirer au but, de ne pas avoir des occasions.
Ben, on est attaquant pour ça. Hein. C'est ce qui nous fait vibrer aussi. Enfin, voilà, occasion, tirer, marquer. Donc, ouais, je ne vais pas te dire qu'en sortant du match hier, très frustré, j'ai dormi un peu tard parce que ouais, tu donnes tout sur le terrain. J'étais vraiment, quand je suis sorti, ça faisait longtemps que j'étais vraiment pas fatigué comme ça. Donc ouais, très frustrant. Tu sors comme ça et ouais, tu te sens impuissant parce que tu as essayé, mais au final, t'as pas pu marquer ou même avoir des occasions.
Ouais, pas de but marqué contre Anthony Ratchopi qui a signé son 10e blanchissage de la saison. On l'écoute et puis droit derrière, c'est Nouma Lavanchi.
Personnellement, c'est positif. J'ai pas encaissé de but ce soir. Après, c'est sûr qu'on était venu ici pour prendre les 3 points. Ça a été un match compliqué et puis faut garder le positif. Et non, c'est bien, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné, mais on n'a pas encaissé.
On avait raté un petit peu notre derby ici. Alors on avait fait 3-3, mais je pense que dans l'intensité défensive, on n'y était pas. Et c'est ce qu'on a corrigé aujourd'hui. On a vu qu'on a mis la même intensité, que ce soit contre Ibé, contre Ball ou contre Toon. Et à partir de là, c'est vrai que nous, on est une équipe qui sait manier aussi le ballon, mais c'est vrai qu'il faut pouvoir le récupérer assez haut pour soulager un petit peu nos joueurs offensifs aussi. Donc on l'a bien fait aujourd'hui. Comme j'ai dit, il nous a manqué peut-être encore un peu de jus pour aller finir les actions, un peu de lucidité dans certaines situations. Mais voilà, comme j'ai dit, on prend ce point parce que c'est un point à l'extérieur dans un derby, même si effectivement on aurait voulu gagner parce que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas gagné. Mais voilà, un bon point au final.
Un bon point pour le FC Sion. On nous demande dans le chat si ce FC Sion peut terminer à la 3e place du classement, Carlos.
Oui.
Oui, c'est clair. Et c'est l'avis de Carlos. On va passer à l'interview de Jérémy Guimeneau. Jérémy, tu es venu avec quelques photos, 5 photos au total. La première, c'est celle-ci. Tu es adorable là-dessus, un petit bonhomme. Je ne sais pas quel âge tu as, tu es tout petit, tout bébé. Elle est exceptionnelle, cette photo. Ça sent déjà très fort le foot. Tu portes le maillot de l'OM, tes crampons sont assez extraordinaires aussi. Alors, tu es où, tu as quel âge, pourquoi ce maillot, pourquoi cette photo?
Alors, 3-4 ans, il me semble, sud de la France, du côté de la famille de mon père. On va voir si t'es fort. Tu reconnais les chaussettes, ça vient d'où? De quel club?
Ouf, il faudrait qu'on nous remette la photo rapidement. Alors,
c'est compliqué. Mais en fait, là, t'as ma maman et mon papa. T'as du côté de mon père, français, donc t'as le maillot
maman,
de Marseille.
Elle est d'origine espagnole?
Non.
Elle est d'origine...
Portugaise.
Portugaise, Benfica.
Les chaussettes du Benfica. Donc en fait, c'est pour ça que cette photo, elle parle d'elle-même et est très symbolique pour moi parce que il y a mon père, il y a ma mère, il y a moi en fait tout petit qui rêve de jouer, toucher du ballon et prendre du plaisir sur un terrain. Donc voilà, pour moi cette photo, c'est une des plus belles de toute ma vie.
C'est surtout maman et papa qui essayent d'influencer leur fils. Tu seras de mon côté.
Mais tu vois que papa avait plus d'influence parce qu'il avait le short et le maillot.
Il a laissé les chaussettes.
C'est le bas du corps. Donc ça veut dire que ouais, tu suis Benfica.
Je suis Marseille et Benfica.
On passe le bonjour à tous les fans de l'OM. Ils sont très nombreux en Suisse romande. Ils sont un peu dans le dur depuis quelques semaines. Le plus grand fan de l'OM que je connais me disait encore cette semaine, on est les meilleurs pour se créer des problèmes là où il n'y en a pas. C'est assez impressionnant là, ce qui se passe à Marseille depuis quelques semaines. Après Bruges, la lumière s'est éteinte, De Zerbi qui n'est plus là et Habib Bey qui arrive, alors que tout fonctionnait. Ça pouvait être une très très belle saison.
Mais c'est ça, enfin, c'est du Marseille. On ne comprend pas, mais c'est du Marseille. Après, il revient, il annonce sur Insta qu'il part, après il revient.
Benatia, c'était exceptionnel. Benatia qui dit, je vais vous dire dans quelques temps ce que je vais faire, je pars. Et en fait, finalement, il prend un autre poste pour pouvoir virer. C'est incroyable.
C'est vrai, cette phrase, elle revient. C'est que tout le monde dit comment se saboter tout seul. C'est un club spécial, on peut s'imaginer. Il faut toujours faire attention à ce qu'on dit, mais autour du club, c'est vraiment spécial. Ce qu'on entend, on l'entend pas ailleurs. Par contre, le fait de changer d'entraîneur quand il n'a pas besoin de le changer, on a des clubs suisses qui l'ont très bien fait puis que ça n'amène pas non plus leurs fruits.
Et bim ! Direct dans le plexus. On passe à la seconde photo. Ah, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Alors là, je ne sais pas, tu dois avoir 16-17 ans par là ? Je ne sais pas.
16-17 ans.
Un trophée, le maillot de Servette collector. Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette photo ?
Importante parce que on gagne le championnat moins de 18 avec Servette, qui nous permet de se qualifier pour la Youth League, qui me permet après de gagner contre Villarreal où je marque, et après de partir à Barcelone. Donc en fait, cette photo, elle est symbolique parce que grâce à ce jour, j'ai pu partir pour moi à Barcelone. Ouais. Parce qu'après, il y a des échéances de la Youth League, et c'est là que Barcelone a pu regarder les matchs. Et ouais, même le scénario, on perd 2-0 et on marque à la fin on marque et on gagne 3-2 là-bas à Getse, donc c'est une belle photo.
Et Barcelone, justement, c'est la plus grande décision de ta carrière, c'est ta troisième photo, c'est la décision pour toi, j'imagine, à ce moment-là en tout cas.
C'est la décision parce qu'il y avait plusieurs opportunités en Suisse, à l'étranger, et pour moi, il n'y avait pas question. Enfin, j'ai même pas réfléchi deux secondes. Pour moi, ça a été clair dès le début. Pour raconter l'histoire, on nous a appelés, j'y ai pas cru. On a raccroché le téléphone. Et après, il nous a dit non, mais c'est véridique, je vous envoie une lettre à la maison. J'ai raccroché le téléphone et à voir quand la lettre arrivait. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres et il y a une lettre officielle du Barça en disant on veut bien que tu viennes voir les installations, que tu viennes passer du temps avec nous. Et pourquoi cette photo ? Parce que ça a été aussi mon binôme à Barcelone, Brahima Fati, donc le frère d'en dessous, et on est toujours resté en contact. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette photo, parce qu'il y avait Barcelone et il y avait lui avec qui on a fait un bout de chemin ensemble.
Ouais. Vous êtes d'ailleurs toujours en contact aujourd'hui avec lui, avec en dessous aussi.
C'est aussi la beauté du foot, c'est que à l'époque, en dessous n'était pas l'étoile. Enfin voilà, c'était pas l'espoir de la famille, c'était Brahima l'espoir de la famille. Brahima est venu au Barça et ils ont fait venir toute la famille. Donc ils ont dit, si vous prenez Brahima, vous signez en dessous. Après pour Brahima, ça s'est pas bien passé et c'est là où en dessous, à partir de là, a commencé à triompher au Barça. Donc ouais, moi je les ai connus dans le petit appartement où ils étaient 5, 6, où même des fois on allait manger, je payais, tout ça. Et de les voir là aujourd'hui, c'est un bonheur et ils le méritent.
Et comment se passe ta vie là-bas ? T'es jeune ? T'es seul ? Est-ce que t'es avec quelqu'un, avec ta famille ? Comment ça se passe ?
Alors je pars seul. Je pars à 18 ans, donc première fois que je pars de la maison. Et en fait, le Barça, ils me disent, viens, intègre la Masia, reste pendant 6 mois, comme ça tu apprends la langue, tu t'intègres un peu des valeurs d'ici. Et après, si tu veux, tu peux prendre un appartement, enfin qui est collé à la Masia, tu peux prendre un appartement, parce qu'il faut le dire, à la Masia, c'est que des jeunes, et à partir de 18, ils ont soit leur famille, ou soit ils partent dans des appartements. Donc je suis resté 6 mois à la Masia, et après je suis parti dans un appartement à côté du centre.
Il aura toujours cette étiquette du jeune Genevois qui est parti au Barça et qui est revenu ensuite en Suisse. Alors, pour certains, c'est un échec. Pour d'autres, c'est une expérience extraordinaire. Moi, je fais partie plutôt du deuxième groupe de personnes. Si le Barça t'appelle, franchement, Carlos, qui n'y va pas. Ceux qui disent « je ne serai pas allé au Barça » sont des menteurs.
Bah, c'est des fans du Real.
Ah, peut-être, effectivement. Non, mais même évidemment, si t'es fan du Real, t'es gamin à l'âge de Jérémy quand
tu réfléchis pas.
Tu vas au Barça.
Mais bien sûr, parce que tu vas rater ce train. Tu sais pas si dans 6 mois... on sait tous le foot, t'apprends vite, à 15, 16 ans, tu sais comme le foot va vite. Un entraîneur qui vient, il t'aime pas, tu dégages. Puis au lieu d'être à Barça, tu finis à Carouge. Ça peut faire l'effet inverse, je parle de citer à Servette, parce que t'as raté ton train. Ceux qui disent que c'est un flop, c'est ceux qui disent, si tu vas à Barça, c'est pour t'imposer puis devenir une star à côté de Xavi, Iniesta. Donc on peut les comprendre aussi. Puis le fait de revenir, c'est un flop. Oui, on peut pas leur dire qu'ils ont tort. Parce que, on peut dire, je comprends s'il dit non, tu te vas au Barça, t'es parti trop tôt, t'aurais dû faire tes classes avant, puis partir quand t'es confirmé. Oui, mais il a eu le courage de raccrocher 2 fois à la gueule du Barça.
Ouais,
quand
t'as la lettre, c'est fort, ça.
Tu vas, parce que si tu n'y vas, il faut se mettre à la place du jeune, tu n'y vas pas. Tu dis, ah ben t'as raison, non, je vais faire quand même mes classes ici, je vais rester
Carlos,
ici.
Oui, mais Carlos, on parle pas, tu vois, ce que je veux dire, c'est on parle pas de, je sais pas, de Mallorque.
En plus, c'est ça.
Tu vois, on parle quand même du Barça. Si le Barça t'appelle, tu vas, un point, c'est tout.
Et c'est pour ça que...
Avec les risques que ça comporte, avec le risque, oui, de retourner un
joueur. Mais ça reste un joueur de la Masia. En plus, c'est ce qu'on veut. Les gens positifs vont dire... Ils ne vont pas dire « Ah ouais, c'est un flop, il est revenu. » Non, c'est un succès parce qu'ils l'ont appelé.
Ouais,
c'est un succès c'est parce ça. Qu'il est allé, parce qu'il est entré. Et puis même quand tu ne joues pas, ça se passe mal. Je pense qu'à un moment donné, si ça peut être 6 mois, 5 mois d'entraînement, tu apprends beaucoup et tu es là-bas, tu es dans ce club-là. Et moi, je préfère me rester sur... Je pense que c'est une des fiertés que tu as aujourd'hui.
Ah oui,
jamais tu te dis club dans la tête. Bah, voilà,
ce que j'ai appris en un an et demi, 2 ans, c'est...
C'est quoi la plus grande chose que tu as apprise là-bas? Le truc, un truc.
Un truc humilité, je dirais. Humilité parce que dès que tu arrives, on te dit t'es personne, t'as Messi qui est à 5 mètres de toi, mais ça ne veut pas dire que t'as réussi, il faut vraiment travailler pour arriver là. Donc voilà, c'est juste l'humilité, on va dire.
Est-ce que quand tu pars de Genève, tu t'imagines à un moment être le futur numéro 9 de la première équipe?
En fait, t'es jeune, t'es insouciant. Et justement, ils sont venus me chercher. Parce qu'en Espagne, ils ont un 9 type. Ils sont un peu tous pareils. Et en fait, moi, ils sont venus me chercher parce qu'ils retrouvaient certaines choses que Suarez avait. Et ils disaient qu'ils n'avaient pas ça dans les jeunes et que, justement, ils voulaient un peu intégrer le 9 Suarez dans les jeunes pour plus tard avoir un Suarez. Donc, tu y penses et tu te dis...
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et dès que tu t'entraînes et tu vois Messi, et même tu vas manger, tu croises Neymar, tout ça... Moi, j'ai vécu un rêve éveillé pendant 2 ans et comme j'ai dit, j'ai appris des choses où nulle part, j'ai plus les armes.
On voit le niveau qu'a le Barça de prendre un jeu du Servette parce que ça cale sur Suarez qui est en train de cartonner chez lui.
C'est un exemple déjà. Et Romain te demande quel est le joueur qui t'a le plus impressionné à la Masia.
À la Masia
À la Masia.
Je te dirais Cucurella. Pas par sa forme de technique, tout ça, mais en fait, le joueur d'aujourd'hui, c'est le même. Ça veut dire que c'est un fou total sur le terrain, c'est un mec qui motive, et on s'est tapé des barres, et ouais, c'est un mec complet, en fait. Après, je te dirais, techniquement, il y avait des Collado, mais qui sont partis en Arabie Saoudite, Ricky Puig qui est parti aux États-Unis, mais je te dirais Cucurella pour le fait que c'est un mec simple et qui a juste travaillé pour être là où il est.
Diego Z28 te demande quel est ton endroit préféré à Barcelone.
Mon endroit préféré, je te dirais le Camp Nou.
Ok, bonne réponse, j'imagine.
J'ai vécu des moments magiques. Le 6-1, j'y étais.
Ouais.
Contre le PSG. Et non, c'est l'endroit où tu rêves de ces moments-là, tu vois les joueurs à la télé, et là, en fait, tu les vois pour de vrai. Et je pense que ça a été la première fois que je voyais une grosse équipe jouer des matchs. Et ouais, c'est impressionnant.
Du Barça, tu vas au Rapid Vienne. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience en Autriche? Est-ce que tu as aussi quelque chose qui te reste?
Je te dirais pas beaucoup parce que ça n'a pas été la meilleure expérience. Mais j'ai appris parce que ça a été difficile. Ça a été difficile. Et en fait, moi, j'étais en forme. En fait, c'est ça le contraste, c'est que j'étais vraiment en forme à l'entraînement. Il y avait tout le monde qui me disait, mais l'entraîneur, il était même venu une fois, il m'a dit, t'as beau marquer 8 buts à l'entraînement, je vais pas te faire jouer, ça sera comme ça. Donc, je te dirais, c'est la persévérance que je garde un peu de là-bas, mais je te dirais la ville.
La ville, ok, c'est parti. De Vienne, tu reviens en Suisse, tu vas à Saint-Gall, c'est la photo suivante. Il y a cette photo que j'aime beaucoup aussi avec, bah, avec les frérots, il y a Vincent Siro et puis il y a surtout Jordi Quintilla. C'est quelqu'un de d'important pour toi, Jordi.
C'est quelqu'un d'important. Cette photo, elle est très symbolique parce que c'est mon... après la période difficile à Vienne, même au début avec Saint-Gall, c'était pas évident. Et ça, c'est mon premier but en Super League avec Saint-Gall. Ouais, c'était vraiment une bande de potes. Jordi, on est toujours en contact aujourd'hui. C'est un mec en or, donc non, que des bons souvenirs de cette période à Saint-Gall.
Là-bas, tu as connu Peter Zeidler, qui est aujourd'hui à Lausanne, pour qui c'est très compliqué d'ailleurs actuellement. Lausanne qui reste sur 9 matchs sans victoire. Comment tu le décrirais, toi, Peter Zeidler, ton Peter Zeidler, celui qui était à Saint-Gall?
Non, mon Peter, bah, que des bons souvenirs. Hein. Avec Peter, on a vécu des années vraiment magnifiques à Saint-Gall. Quelqu'un à l'écoute, quelqu'un qui... Bah, il vient de base, enfin, il est prof de base, donc en fait, ses joueurs, c'est comme ses enfants, donc il ne veut pas qu'il y ait de problème à l'interne, il veut pas que... Voilà, il veut toujours que ça soit positif. Il a un peu des règles... qui sont bien à lui, avec le téléphone. Je sais qu'il aime pas trop le téléphone. Je sais qu'il veut que tout le monde soit là pour manger, qu'il attend que tout le monde finisse de manger pour partir. Mais c'est Peter et que du bon souvenir. Et pour moi, c'est un entraîneur qui est vraiment bien et surtout pour la Super League.
C'est le genre d'entraîneur que t'aurais bien aimé avoir, toi, celui, voilà. c'est pour ça que je viens vers toi. Non, mais parce que justement...
Sans dire qu'il est bon
papa,
mauvais.
Tout ça, ouais. C'est pas...
Oui, alors je savais pas qu'il était prof. Mais c'est vrai que ses élèves... C'est peut-être pas ses enfants, mais ses élèves. Parce que c'est un jeu où on voit que c'est lui qui doit avoir la baguette. Ouais. Et j'en ai connu dans cette époque de Saint-Gall où ça, vous étiez ses soldats, ses élèves. Fallait faire ce qu'ils faisaient et ça fonctionnait. Avec d'autres, j'ai eu des cadres où... fallait un peu lâcher un peu plus parce que on aime avoir de la discipline. Moi j'aimais la discipline, mais il fallait un peu ce côté liberté. Puis je pense qu'à Saint-Gall, c'est exactement les profils qui vont avec lui.
On te demande d'où te vient ta passion pour Carlos Sainz sur le chat.
Peut-être Carlos Sainz.
Quelqu'un qui te connaît bien, peut-être, j'en sais rien, j'ai
non,
ça.
Non, aucune. Moi, je suis Lewis Hamilton à fond.
Alors, je pense que c'est quelqu'un qui te connaît bien, justement, parce qu'il y a des smileys.
Ah ouais,
c'est plutôt Hamilton.
Bah, je sais pas, alors, je pense à plusieurs personnes. Mais non, moi, je suis Hamilton à fond. Donc.
Allez, on va regarder la photo suivante. C'est la dernière. C'est celle qui claque avec la Coupe de Suisse, le clan Jérémy Guimeneau. Évidemment, bah, on imagine pourquoi tu as choisi cette photo, mais on t'écoute volontiers.
Ouais, pour moi, cette photo, elle décrit une. Un moment, enfin une période qui est importante parce qu'on voit le footballeur sur le terrain, on voit Jérémy, mais
tous ces gens
derrière il y a beaucoup de personnes. Souvent les gens ils sont là quand ça va bien, mais toutes ces personnes sont là quand ça va bien et quand ça va mal. Donc voilà, il y a ma belle famille, il y a mon beau-père que j'ai dépensé pour lui et pour ma belle famille qui nous a quittés il y a pas longtemps. Donc voilà, c'est une photo symbolique et que je garderai à vie.
Ça, c'est quand ça va bien, effectivement. Les gens qui sourient, tout ça, on choisit souvent les photos où on sourit. Tu as aussi vécu des moments difficiles, surtout à Genève. Moi, j'ai toujours trouvé que les Genevois sont encore plus durs avec les joueurs Genevois. Je ne sais pas ce que tu en penses, Carlos. Frick, Guimeneau, enfin bref,
oui, non, ils sont
Magnin.
Je ne sais pas s'ils sont plus ou moins, parce que quand il y a des, on va dire, des Français... qui ne donnent pas tout, ils sont aussi très durs avec les gens qui viennent de l'extérieur. Donc, je n'ai pas senti une différence entre si tu es Genevois ou pas Genevois, mais qui sont durs, je peux le confirmer. J'ai fait assez de clubs, je connais des gens dans tous les autres clubs. Ils sont très durs. Les critiques viennent très vite, ça flingue très vite, on oublie très vite ce qui s'est passé hier. On sait que dans le foot, ça s'oublie vite.
Ça va encore plus vite à Genève.
Ça va encore plus vite à Genève, il faut l'avouer, c'est dur.
Ouais. Bon, cette question qui est arrivée par dizaines, évidemment, tu es en fin de contrat au terme de la saison. Beaucoup de gens, beaucoup de supporters voudraient savoir ce que tu vas faire la saison prochaine.
Bah, je ne sais pas.
Je m'attendais à ce que tu me répondes ça.
Bah, je ne vais pas te dire, quand même, non. La vérité, je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai rien sur la table. Comme j'ai dit depuis le début, même à mon agent, c'est une des périodes, depuis que je suis revenu à Servette, où je prends du plaisir, je prends du plaisir sur le terrain, j'ai du temps de jeu, j'arrive à marquer pour mon club. Donc voilà, laissez-moi tranquille. Quand ça vient, ça vient. Mais moi, pour l'instant, je pense vraiment que terrain. Et le moment venu, on parlera pour le futur.
Beaucoup de gens qui parlent de renaissance cette saison pour toi, à Servette, qui utilisent ce terme-là, parce que ça a été dur, effectivement, pour toi, notamment la saison dernière. Il y a un épisode sur lequel j'aimerais revenir et on l'a vu aussi quelques fois au Real Madrid avec Huizen qui a été sifflé par ses propres supporters. Tu as vécu ça, j'étais là. Comment on vit ça ? Quand tu te fais siffler par les adversaires, peut-être ça peut justement te donner une certaine énergie. Quand tu te fais siffler par tes propres supporters, comment tu as vécu ce moment ?
Bah, dur. Enfin, je ne veux pas dire que j'ai apprécié. Mais c'est là où on parlait avant, le public genevois, il est comme ça et il ne siffle pas beaucoup de joueurs et je pense que c'est aussi une sorte d'affection, enfin, d'amour qu'ils ont aussi pour les joueurs en montrant que voilà, donne plus, nous on est là derrière toi, on a été là derrière toi, mais essaye de donner plus et on sera là aussi pour t'applaudir. Je ne vais pas te cacher que ça, là c'est facile à le dire, mais j'étais surpris même en sortant, je me suis dit attends, il y a quelqu'un dehors, non, et en fait on me sifflait. Mais quand je vois aujourd'hui que les gens ils applaudissent, peut-être que c'est certaines personnes qui m'ont sifflé, j'en suis convaincu, bah, c'est aussi une forme de revanche et j'ai travaillé dur pour ça, donc à moi de ne pas lâcher et que ça continue comme ça.
Peut-être la question la plus difficile de cette émission, on est bientôt au bout, je l'ai gardée pour maintenant, elle n'est pas
donc,
facile,
donc elle est pour
il y aura peut-être besoin de ton aide, il y aura peut-être besoin de ton aide. Plusieurs personnes pour t'embêter te demandent, t'es en fin de contrat, si t'as Lausanne qui vient te chercher et Sion qui vient te chercher, tu vas où? On te laisse un petit moment pour réfléchir ou t'arrives à trouver un petit truc sympa à dire? Parce qu'évidemment, tu peux pas aller ni chez l'un ni chez l'autre, j'imagine.
Non, je pense que je pourrais pas. Je suis genevois, on sait jamais ce qui peut se passer dans le futur. Il faut fermer aucune porte, mais non, je me vois pas jouer... Pour un des deux clubs.
Et si aucun des deux la retraite ? Ou l'étranger, peut-être ? Ça pourrait te tenter une deuxième fois à l'étranger.
C'est quoi, Carlos, tu veux m'aider ?
Non, la question, il faut la poser. Si tu n'as rien, à part Sion et Lausanne qui t'appelle.
Tu ah, mais c'est pas ça la question. De la...
Celle-ci, c'est la deuxième fois. C'est Carlos Varela.
Non, mais...
Mais un retour à l'étranger, peut-être, ça te tenterait ?
Je suis ouvert à tout. Comme je t'ai dit, pour l'instant, je n'ai rien sur la table. Ou peut-être que j'ai, mais je ne suis pas au courant. C'est encore tôt dans la saison, il reste encore beaucoup de matchs. Il peut se passer plein de choses, donc juste enjoy sur le terrain.
Et en quelques mots, on voudrait savoir pourquoi le numéro 21 ?
En quelques mots, le numéro 21, parce que mes numéros, ils étaient pris. Et 21, parce que mon père est né le 21 et que c'est son numéro. Et penser aussi pour Karim Gadzeta qui nous a quittés en 21. Donc voilà, ça se concordait un peu par rapport aux deux et je me suis dit pourquoi pas.
Et c'est très beau, ce numéro 21, il est là. Il est signé, le maillot de Jérémy Guimeneau que vous pouvez gagner à partir de demain. J'espère que vous avez bien écouté l'émission. Jérémy, merci mille fois
merci
d'être passé nous voir. Bonne fin de saison à toi, Carlos, au top bientôt. Comme d'habitude. On se voit à très vite.
À très vite.
À bientôt également à vous. Belle semaine à toutes et à tous. Ciao.